Ce podcast a été réalisé à partir de l'enregistrement du webinaire organisé par GPS Cancer le 28 avril 2023 sur le thème « Cancer et droits des patients et des aidants » avec l'intervention de Dominique Thierry, juriste spécialisée en droit de la santé, initiatrice de l'association Juris Santé.
Très bien. Je vois que l'heure avance. On va peut-être aborder notre dernier sujet et puis on reviendra sur les questions si on a un peu de temps parce que c'est un sujet quand même très important, c'est sur les aidants. Pour les aidants, il y a eu aussi un temps de travail aménagé qui est proposé aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça se passe ?
Alors, ce n'est pas exactement un temps de travail aménagé. C'est qu'on propose…
Alors, ben voilà, il faut expliquer là.
On propose… Alors déjà ce qui est maintenant demandé aux employeurs, c'est que lorsque quelqu'un aide un proche et qu'il voit qu'effectivement, ben, ça nécessite un peu de flexibilité au niveau de son temps de travail, aujourd'hui, le conseil à donner à cet aidant, c'est d'aller voir le médecin du travail, voir en parler à son employeur et voir s'il est possible, effectivement, là on est dans l'aménagement, d'aménager les horaires de travail. Et l'employeur qui ne veut pas le faire doit quand même justifier de l'impossibilité de mettre en place ces aménagements. Alors, ce n'est pas encore très développé, mais ça va très certainement évoluer vers de plus en plus de flexibilité par rapport aux horaires de travail pour les aidants. Donc, on attend le plan Agir pour les aidants là, de 2023-2025 probablement, pour voir ce qu'ils vont peut-être remettre dedans, etc. En tout cas, ça, c'est une première chose. C'est effectivement, si on a un besoin de flexibilité au niveau des horaires, ça peut être possible, mais sous réserve quand même que ce soit compatible avec l'organisation de l'entreprise. Si ce n'est pas compatible avec l'organisation de l'entreprise, ben, l'employeur ne mettra pas en place cette flexibilité. Donc ça, c'est une première chose. Et après, le deuxième grand besoin des aidants, c'est de pouvoir avoir en fait des temps de congés supplémentaires qui ne soient pas pris sur leur temps de congé personnel, hein, sur leur congé payé, afin de pouvoir s'occuper d'un proche, notamment dans le cas de cancer. Donc là, par rapport à ça, donc pour les, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont concernées par les enfants, pour les enfants, le dispositif existe depuis longtemps, c'est le congé de présence parentale, qui peut être financé grâce à l'allocation journalière de présence parentale. Dans le cadre de ce congé de présence parentale, il y a eu vraiment des progrès immenses qui ont été faits, puisque si vous retournez à 2012, on avait droit à un congé de présence parentale de 310 jours sur 3 ans, et il n'était pas renouvelable. Petit à petit, en 2014, ce congé de présence parentale, on a eu la possibilité de pouvoir le renouveler. À l'issue des 3 ans, on pouvait redemander 3 ans. Et aujourd'hui, les personnes dont l'enfant, malheureusement, est malade, a une aggravation, une rechute, l'état de santé ne s'améliore pas, on va pouvoir, même si on a pris, parce que 310 jours, c'est moins, on est d'accord, hein, c'est moins que 3 ans en fait. Donc, si on termine ces 310 jours avant le délai des 3 ans, eh bien, on va pouvoir malgré tout renouveler. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 620 indemnité journalière de présence parentale dans le cadre de ce congé de présence parentale. Donc ça, c'est au niveau de la prise en compte par rapport aux enfants de moins de 20 ans. Donc depuis 2020, on espérait que ce soit un peu le même modèle, mais en fait c'est un modèle dégradé. On a vu la création du congé de proche aidant, puisque en fait, si vous voulez, sur le modèle de ce qui était fait pour les enfants, le gouvernement avait créé la possibilité effectivement de demander un congé de proche aidant déjà de mémoire 2017-2018, hein, 2017 dans le privé, 2018 dans la fonction publique de mémoire. Mais on s'est rendu compte très vite que ce congé de proche aidant n'était peu sollicité, quasiment jamais sollicité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune indemnisation prévue. Congé de présence parentale, 310 jours éventuellement renouvelés. Congé de proche aidant, il n'y avait rien au départ. Donc, 1er octobre 2020, on a eu la possibilité, lorsque on demandait un congé de proche aidant, d'avoir une allocation journalière de proche aidant, qui est d'ailleurs la même que l'allocation journalière. En termes de montant, c'est exactement le même montant que pour les parents d'enfants de moins de 20 ans. Donc, du coup, ça a été vu comme vraiment une bouffée d'oxygène hein, par les aidants, mais très vite, on a vu les limitations du dispositif. Si je vous dis qu'entre 2020 et 2021, il y a eu un peu plus de 19 000 demandes de congés de proches aidants qui ont été faites avec une demande en parallèle de cette allocation journalière de proches aidants. Et sur ces demandes, il y en a environ 5 000 seulement qui ont été accordées. Alors pourquoi ? Parce que au jour d'aujourd'hui, cette allocation journalière de proches aidants et la définition du congé de proches aidants, ce n'est pas du tout adapté au domaine de la cancérologie. Je m'explique. Aujourd'hui, pour pouvoir obtenir un congé de proche aidant, il faut que la personne que vous aidez soit reconnue avec un handicap de 80% ou plus, soit reconnue en situation de dépendance et bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie pour un GIR 1, 2, 3 ou 4. Et le 4, il vient d'être ajouté l'année dernière au mois de juillet. Avant, c'était jusqu'au GIR 3.
Donc, alors, juste rappeler GIR. GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4.
Qui évalue la dépendance des personnes, en fait. Il y a un certain nombre de critères.
C'est des critères.
Il y a un certain nombre de critères. Les deux derniers niveaux, c'est 5 et 6, c'est 6 et 5. En fait, le GIR 1, c'est la personne qui a besoin de quelqu'un, d'une tierce personne au quotidien, qui va avoir des difficultés à se déplacer, à se nourrir, à se laver, etc. GIR 2, c'est un état de dépendance un peu moins, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on est jusqu'au GIR 4. Les personnes qui sont reconnues en GIR 4 et qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie, eh bien, leurs aidants ont accès au congé de proche aidant et à l'allocation journalière de proche aidant. Si la personne est reconnue en situation de handicap, c'est pareil, on va avoir accès, donc carte invalidité, carte mobilité, inclusion, mention invalidité, on aura à ce moment-là accès également à cette allocation journalière de proche aidant. Si la personne est en pension d'invalidité catégorie 3, pas catégorie 2, hein, catégorie 3. Catégorie 3, c'est une pension d'invalidité où on attribue une majoration tierce personne parce qu'on estime que la personne a besoin d'aide au quotidien. Mais dans ces cas-là, l'aidant pourra obtenir cette allocation journalière de proche aidant et ce congé de proche aidant. Mais ça ne répond pas aux besoins en cancérologie où très souvent, enfin, toutes les personnes qui sont diagnostiquées avec un cancer ne sont pas déjà reconnues en situation de handicap, ne sont pas déjà reconnues en situation de dépendance. Donc, le temps de monter les dossiers, etc., ben, quand on voit, par exemple, à la MDPH, dans certains départements, il y a 12 mois d'attente, on a le temps d'attendre. Hein, voilà. Et donc, ça explique toutes les personnes en 2020, les personnes qui… Il y avait beaucoup de personnes qui, en fait, demandaient ce congé et demandaient cette allocation en étant persuadées d'y avoir droit parce que leurs proches étaient atteints d'un cancer et que dans la conception, dans l'imaginaire, un cancer, c'est quelque chose, et d'ailleurs c'est vrai, c'est quelque chose de grave et qui demande de pouvoir avoir une réactivité immédiate. Donc, il y a du lobbying qui est en cours. On avait déjà demandé ça l'année dernière, c'est-à-dire qu'on puisse accorder l'allocation journalière de proche aidant et le congé de proche aidant également aux aidants de personnes qui avaient un cancer et pour un certain nombre d'autres affections de longue durée qui auraient été listées et qui permettait aussi d'accéder. Mais ça n'est pas passé l'année dernière, mais bon, voilà. L'ouvrage est sur la table, donc on espère que ça y arrivera. Alors, après, sachez que c'est quand même limité. Vous vous rappelez, le congé de présence parentale, on est sur 310 jours sur 3 ans, renouvelable, et éventuellement, certains parents vont avoir jusqu'à 620 jours sur 3 ans ou un petit peu plus. Par contre, pour les proches aidants, donc c'est pour les enfants de plus de 20 ans ou pour toute personne de plus de 20 ans, eh bien là, on va être limité à 66 jours indemnisables. Donc, on n'est pas sur 310 jours, on est sur 66 jours non renouvelables. Et en plus, le congé de proche aidant, c'est maximum un an sur toute sa carrière. Et beaucoup de gens pensent que c'est un an par proche aidé, mais non, c'est un an, quel que soit le nombre de proches aidés. Donc, on a droit à un an, point barre. Donc là aussi, on espère que la législation va évoluer, mais pour l'instant, c'est un an, quel que soit le nombre de proches aidés.
Mais c'est important, c'est important de signaler ça parce qu'effectivement, il y a des avancées, mais ce n'est pas encore suffisant quand on est face à une population vieillissante avec des personnes qui sont de plus en plus touchées par les maladies comme le cancer ou qui sont en maladie chronique où on sait pertinemment que effectivement ça va. Les 66 jours sont très vite pris et sur le temps de carrière, c'est assez fou, oui.
La carrière, oui. Après, heureusement, il y a des entreprises qui, heureusement, sont plus généreuses que le législateur, hein, puisqu'il y a des entreprises, ils ont mis en place la possibilité de donner des jours de RTT ou des jours de congés payés également au bénéfice des salariés aidants. Et là, dans ce cas-là, on a accès à ces… il faut faire la demande et on n'est pas dans les mêmes conditions puisque là, ce n'est pas encadré par la loi. Là, c'est les entreprises qui décident en interne pour qui est-ce que… Enfin, il y a un règlement. Hein, en règle générale, quand il y a des levées de dons de jours de congé, on a aussi un règlement qui précise dans quelles conditions ces jours de congé peuvent être accordés, etc. Mais très souvent, il n'y a aucun souci quand la personne sollicite ces jours des dons de jours de congé par rapport pour accompagner quelqu'un qui a un cancer. On ne va pas lui demander la validité ou le handicap ou l'état de dépendance. On va se contenter, les RH se contenteront d'un certificat médical qui atteste que la personne a besoin de son proche. Est gravement, un problème de santé qui nécessite la présence de son proche et on n'a même pas à dire de quel problème de santé il s'agit.
Merci beaucoup pour toutes ces explications parce que c'est très fourni et c'est très complexe. J'espère que au moins vous sachez qu'on va faire des petites capsules vidéo de ce webinaire et qu'on vous les retrouverez aussi sur le site et sur aussi la chaîne YouTube de GPS Cancer, ce qui vous permettra d'assimiler, parce que c'est très concentré. Et je pense que quand on est directement concerné, on a eu des explications, mais ça va très vite. Donc là, maintenant, il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois, il y a une question là de... merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut orienter les patients vers Juris Santé?
Oui, oui.
Je laisse répondre. Oui, on a affiché le numéro de téléphone et sur les articles aussi qui sont en ligne, vous les retrouverez aussi ces références qui ont été, puisque les articles sur cancer et travail, droit à l'oubli, démarches sociales et administratives, ça avait été fait par Dominique. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Oui, alors moi, j'ai vu là qu'il y a une... Attendez, pourquoi est-ce que je ne vois pas? Je ne vois plus les questions, je ne sais pas où elles sont passées.
Alors, la diversité des contrats de prévoyance et l'impossibilité d'être rémunéré posent également problème dans les statuts et la professionnalisation des missions de patients experts, partenaires, qui interviennent de plus en plus en père aidance, en ETP, en formation auprès des soignants, en recherche, et qui sont du coup condamnés au bénévolat. C'est vrai que ce n'est pas particulièrement pour les patients experts, c'est malheureusement le lot de la plupart des personnes qui sont avec des contrats de prévoyance ou en invalidité.
Oui, et qui ont quitté les effectifs de leur entreprise. Donc, oui. Ça va bien au-delà de… Ça pose, bien sûr, pour les personnes qui veulent se lancer dans des activités, de nouvelles activités professionnelles, finalement, que ce soit en tant que patient, expert, partenaire ou autre, ou que ce soit sur d'autres métiers, c'est la même difficulté, en fait. Ce n'est pas spécifique, en tout cas. Et après, je crois qu'il y avait quelque chose sur les tests génétiques, je ne sais pas.
Il y avait aussi…
C'était une remarque sur le fait qu'on ne pouvait pas souscrire de prévoyance quand on avait certaines maladies génétiques, même quand on était en emploi.
Ah, d'accord. Oui, c'est possible que… Mais ce n'est que lorsqu'il y a un questionnaire de santé. Par exemple, quand vous êtes employé dans une grande entreprise, il n'y a pas de questionnaire de santé dans les prévoyances. Mmh. Normalement, là, il n'y a pas de souci. C'est quand vous voulez y accéder vous-même. Et après, je crois que j'avais…
Il y avait encore une question sur les assurances emprunteurs. Est-ce qu'il y a des discussions en cours pour les achats en dehors des résidences principales?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est prévu dans la convention ARS, c'est ce qui est envisagé, c'est les prêts professionnels, donc c'est les emprunts pour par rapport aux prêts professionnels, c'est les prêts à la consommation et effectivement le domicile principal. Ce n'est pas du tout prévu pour l'instant, en tout cas, en l'état actuel des lois, il n'y a rien de prévu. Effectivement, quand quelqu'un veut emprunter pour acheter un immeuble dans l'objectif de le louer, la convention ARAS ne peut pas intervenir. Donc, a fortiori, il n'y a pas moyen non plus d'accéder, parce que ce n'est pas le domicile principal, donc on n'a pas accès à ce prêt sans questionnaire de santé. Et comme ce n'est pas le domicile principal ou un… Alors, ça dépend si, par exemple, l'objet, si c'est du locatif à titre… Dans le cadre d'une occupation professionnelle, là, ce serait à revoir dans le cadre d'un prêt professionnel.
D'accord. Alors, il y a encore d'autres… encore une question sur les prévoyances. Si je suis licenciée, mais que j'ai une invalidité de catégorie 1, est-ce que je peux créer une entreprise et continuer de bénéficier de la prévoyance?
Alors…
Encore une question. Alors, je pense que c'était, ça dépend du contrat de prévoyance qu'on a avec son entreprise.
Non, mais là, on est sur. Alors, il faut quand même vérifier le contrat de prévoyance quand même. Donc, il faut oui. Tout se référer au contrat, parce que là, on est vraiment. Les contrats, c'est pas que là, c'est prévu par le droit commun. Hein, là, on est vraiment sur le droit du contrat. Donc, il faut bien vérifier le contrat, mais en règle générale, dans les contrats de prévoyance. Où vous avez déclenché des garanties dans le cadre de la pension d'invalidité catégorie 1, en fait, le principe, c'est qu'on ne peut pas vous empêcher, puisque la sécurité sociale reconnaît que vous avez conservé une capacité de travail et que la sécurité sociale, elle s'attend à ce que vous repreniez un travail. Hein, on voit bien, d'ailleurs, c'est sur les niveaux d'indemnisation au niveau des pensions d'invalidité. Si vous êtes en catégorie 1, on va prendre 30% mensualisé. Enfin, le pourcentage sera sur 30% des montants qui auront été pris pour le calcul de votre pension d'invalidité. Si on est en catégorie 2, on va se baser sur 50% de ces mêmes montants. Donc, vous voyez, on voit bien que le niveau de protection n'est pas le même. Donc, pension d'invalidité catégorie 1, pour la Sécu, vous allez reprendre le travail. Donc, à partir de là, les prévoyances, elles ne peuvent pas vous interdire de reprendre un travail. Et on ne peut pas vous obliger à rester chez le même employeur jusqu'à la fin de votre vie. Donc, à partir de là, effectivement, les contrats sont quand même plus favorables et permettent plus facilement, effectivement, de cumuler avec les revenus d'une entreprise que vous créez ou les revenus vous changez d'employeur, la prévoyance va vous suivre. Par contre, il peut y avoir dans ces contrats de prévoyance, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est catégorie 1, la prévoyance, elle intervient, par exemple, tant que vous restez dans les effectifs, elle vous garantit 100% de votre salaire. Par contre, le jour où vous sortez des effectifs, donc vous avez été licencié, vous avez demandé, vous, une rupture conventionnelle, peu importe, vous êtes sorti des effectifs de l'entreprise, et à ce moment-là, la garantie qui s'applique, par exemple, c'est 60% de votre salaire. Et à ce moment-là, effectivement, imaginons que vous reprenez un travail à temps partiel, quelque part, même à mi-temps, souvent, entre la pension d'invalidité et la rémunération que vous allez avoir, en fait, les prévoyances n'ont plus à intervenir. Elles réinterviendront au moment où vous êtes malade, où vous vous arrêtez, au moment où vous passez au chômage parce que vous avez été licencié ou des choses comme ça. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les prévoyances des pensions d'invalidité catégorie 1 qui s'appliquent une fois que vous avez quitté les effectifs, souvent, il y a des temps où elles n'ont pas à intervenir, elles sont suspendues et puis elles sont réactivées chaque fois que vous pouvez en avoir besoin. J'espère que j'ai
été… Oui, ça, c'est un cas que je connais aussi justement dans ce sens-là qui permet en fait de… La prévoyance arrive que si par exemple les revenus baissent, personne est au chômage, donc ses revenus, elle avait réintégré une nouvelle entreprise, la prévoyance la suivait. La personne est au chômage et elle a une pension d'invalidité, la prévoyance va augmenter parce que justement, il y a une baisse de revenus. Il y a un montant qu'ils ne pourront pas dépasser. Mais ça peut aller fonctionner comme ça jusqu'à la retraite et même si, pour répondre à cette question, même si la personne a créé une entreprise.